Salut Sacha. Au menu aujourd'hui, c'est lourd, très lourd. La guerre en Iran avec Trump qui contourne le Congrès, une proposition iranienne pour rouvrir Hormuz, le Liban sous cessez-le-feu fragile, le Pakistan et l'Afghanistan qui s'enfoncent dans l'escalade, et puis deux textes plus larges, un édito offensif du grand continent sur la vitesse comme matrice de puissance et une critique du diplo sur l'industrie de l'armement. On commence par Téhéran.
Allons-y. Le grand continent, daté du 27 avril, fait le point sur une séquence diplomatique très dense. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est passé du Pakistan à Oman avant d'atterrir à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Poutine. Et pendant ce temps, Trump annule la mission de ses émissaires Witkoff et Kushner à Islamabad avec une phrase d'une élégance toute trumpienne. Je vois pas l'intérêt de leur faire faire 18 heures de vol, on peut s'en sortir par téléphone.
Le ton négociation par SMS pour une guerre, c'est saisissant. Concrètement, qu'est-ce que propose Téhéran ?
Selon des sources citées par Axios et reprises par le Grand Continent, la proposition iranienne viserait d'abord à résoudre la crise du détroit d'Hormuz et à lever le blocus américain. Ensuite seulement viendrait un cessez-le-feu durable, puis des négociations sur le nucléaire. Trump a jugé la proposition substantielle, mais pas suffisante. Il faut comprendre que Washington considère le blocus comme son principal levier. Le président iranien Pezeshkian, lui, refuse de négocier sous la pression, les menaces et le blocus.
Et il y a cette image très parlante de Trump sur Fox News qui compare l'économie iranienne à un pipeline qu'on ferme et qui finit par exploser de l'intérieur. 3 jours, dit-il, c'est de la guerre économique avouée.
Avouée et théorisée. C'est ce que Mediapart documente dans son article du 27 avril. Trump a contourné le Congrès pour engager cette guerre. Le 1er mai, le délai de 60 jours après la notification officielle au Congrès expire. Constitutionnellement, c'est un moment clé. Et politiquement, Trump n'a aucune intention de demander une autorisation. On est dans la lignée de toutes les présidences impériales depuis la guerre du Vietnam, mais avec un mépris assumé du contre-pouvoir législatif.
Ce qui me frappe, c'est le silence relatif des démocrates. On a un président qui mène une guerre contre un État de 90 millions d'habitants sans vote du Congrès, et le débat institutionnel est étouffé.
Parce que le consensus bipartisan sur l'Iran est ancien. Depuis 1969, le régime des Mollahs sert de repoussoir commode. Et puis Trump a verrouillé le Parti républicain. Reste que constitutionnellement, c'est une dérive grave. Le War Powers Act de 1973 était censé empêcher exactement ça.
Passons au Liban, parce que tout est connecté. L'IRIS publie une analyse de Pascal Boniface sur la prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu Israël-Liban imposé par Washington à Netanyahou.
Imposé, oui, parce que Netanyahou est fragilisé par la contestation interne. Effet notable, ce sont les premières négociations directes Israël-Liban depuis plus de 40 ans. Alors que les deux États ne se reconnaissent pas. Washington pousse à une reconnaissance, mais 6% du territoire libanais reste occupé par l'armée israélienne. Difficile de négocier sereinement dans ces conditions.
Et la France, alliée historique du Liban, écartée des négociations. Sans réaction. Ça en dit long sur l'effacement diplomatique de Paris, non ?
Ça confirme ce qu'on observe depuis des années. La France a perdu son levier au Levant. Boniface souligne que l'issue libanaise dépend en réalité des négociations Washington-Téhéran autour d'Hormuz. Le Liban est devenu une variable d'ajustement dans une partie qui se joue ailleurs. Pour un pays en pleine crise politique, avec des institutions exsangues et des déplacements massifs, c'est terrible.
Pivotons vers une autre poudrière, le Pakistan-Afghanistan. Le Monde diplomatique de mai consacre un article à la ligne Durand, c'est 2640 km de frontières poreuses.
Article essentiel signé Rehman. Fin février, le Pakistan a bombardé en profondeur le territoire afghan jusqu'à Kaboul, Kandahar et l'ancienne base américaine de Bagram. Et dans la nuit du 16 mars, une frappe pakistanaise a touché un centre de désintoxication à Kaboul. Au moins 143 morts. Un cessez-le-feu de 5 jours pendant l'Aïd, puis reprise des combats le 27 mars.
143 morts dans un centre de désintoxication. On en parle à peine en Europe. Pourquoi cette confrontation ouverte maintenant ?
Parce que les talibans abritent ou tolèrent le TTP, les talibans pakistanais, qui multiplient les attentats au Pakistan. Islamabad, puissance nucléaire avec une immense armée, mais une économie au bord du gouffre, joue une violence calibrée, selon le Diplo. Le risque, c'est l'erreur de calcul. Deux États dont l'un est doté de l'arme nucléaire, dans une logique d'escalade contrôlée, c'est exactement le scénario que les théoriciens de la dissuasion redoutent.
Et géographiquement, ça touche directement le dossier iranien. Araghchi est passé par Islamabad ce week-end. Tout le voisinage de l'Iran est inflammable.
Exactement. Et c'est ce qui rend la séquence actuelle si vertigineuse. Iran-USA, Israël-Liban, Pakistan-Afghanistan, Ukraine-Russie, quatre fronts simultanés, tous interconnectés.
Justement, l'Ukraine. The Guardian rapporte qu'Odessa a encore été frappée cette nuit par des drones russes, plus de 10 blessés, immeubles résidentiels touchés, un hôtel détruit dans le centre. La première ministre ukrainienne Sviridenko est en Pologne pour parler reconstruction et défense.
Et Mediapart publie un reportage très éclairant sur les unités anti-drones dans les campagnes ukrainiennes, qui préfigure les guerres de demain. C'est le lien parfait avec le grand texte de l'amiral publié dans Le Grand Continent, La vitesse et la matrice de la nouvelle puissance.
Alors là, Sacha, je vais te demander de m'aider, parce que le texte est dense et idéologiquement très marqué. L'amiral écrit que la guerre est de retour, qu'on a désarmé dans nos esprits pendant 30 ans, et que la nouvelle dissuasion repose sur l'IA et la vitesse d'apprentissage.
C'est un texte typique de la doctrine OTAN actuelle. Le diagnostic technique n'est pas faux. Oui, en Ukraine, on frappe d'abord les centrales électriques, les télécoms, les chaînes logistiques. Oui, l'arrière n'existe plus. Oui, l'IA accélère les boucles décisionnelles. Mais politiquement, ce texte sert à légitimer une transformation radicale de nos sociétés en sociétés de guerre permanente. La paix elle-même est devenue hybride, écrit-il. Une fois qu'on a posé ça, on peut tout justifier. Militarisation de l'industrie, des données, de la cohésion sociale.
Et c'est pile le moment où le monde diplomatique sort son article au titre ironique « Adieu, que la guerre est jolie », qui démonte la communication de MBDA, le fabricant européen de missiles. 44 milliards d'euros de carnet de commandes selon Challenge. Des missiles qui ont tué plus de 500 personnes à Gaza, dont une centaine d'enfants. Et à côté, des pratiques d'éco-conception du matériel de guerre.
Des bombes bio, ironise le Diplo. Mais le point central de l'article est plus profond. Il observe que la stratégie de gestion du risque réputationnel des marchands d'armes devient inutile, parce que les médias dominants, les partis de gouvernement et l'Élysée communient désormais dans la célébration du réarmement. Le Monde a fait un dossier en 6 volets en mars 2025, dont le premier article s'appelle « Les dépenses militaires, un levier pour la croissance ». France Culture explique comment préparer les hommes à la guerre.
Le keynésianisme militaire comme horizon politique. C'est ça qui me met mal à l'aise. On nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, l'école, la transition écologique, mais soudain, des centaines de milliards pour le réarmement est présenté comme une opportunité économique.
C'est le vieux mécanisme que Rosa Luxemburg analysait déjà. L'armement comme débouché pour le capital quand les autres sphères saturent. Ce qui est nouveau, c'est l'alignement complet du champ médiatique. La Revue Nationale Stratégique 2025 appelle à une économie qui se militarise et personne ne discute le cadre. On discute juste les modalités.
Et le texte de l'amiral pousse encore plus loin. Soit l'alliance se transforme en continu, soit elle décroche. Pas de troisième voie. C'est une rhétorique qui ferme tout débat démocratique.
C'est le piège de la vitesse. Si tout doit être instantané, piloté par IA, en guerre permanente, alors il n'y a plus de temps pour la délibération. Le Congrès américain contourné par Trump sur l'Iran, c'est l'incarnation parfaite de cette logique. La guerre va trop vite pour la démocratie.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on retient ?
3 choses. 1. L'issue de la guerre Iran-USA se joue cette semaine, autour du détroit d'Ormuz et de l'échéance du 1er mai au Congrès. 2. Tous les fronts régionaux, du Liban au Pakistan, sont liés à cette confrontation. 3. Le récit dominant en Europe, illustré par le texte de l'amiral, transforme la guerre en horizon permanent et indiscutable. Et c'est ça qu'il faut continuer à interroger.
et lire le monde diplomatique pour se rappeler qu'à l'autre bout des éco-conceptions de MBDA, il y a des écoles et des mosquées éventrées. À demain, Sacha.
À demain.